Bonsoir à tous, et bien merci d'être là. Donc j'ai le plaisir d'inaugurer ce soir un nouveau cycle qui s'appelle Corps filmé, autour du corps au cinéma. Et donc c'est un grand plaisir pour moi de démarrer ce cycle avec le film de Marie Lozier, La balade de Genesis et les DJ. Ce film qui prône l'amour et la liberté. Donc voilà, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie Lozier, qui est pour un an en France. Et puis Nicole Brenez, historienne du cinéma, spécialiste du cinéma expérimental, qui est là aussi pour nous raconter un petit peu le parcours de Marie, et puis ensuite, après le film, engager une petite discussion avec vous et elle. Donc voilà, donc je vais laisser Nicole un petit peu vous raconter qui est Marie, quel est son parcours, et puis aussi Marie, dire quelques mots du film, et ensuite on lancera le film. Et voilà. Bonne projection, et voilà, merci.
Merci Florence, merci beaucoup pour cette invitation. Donc dans le cycle qu'a conçu Florence, donc intitulé Corps filmé, il y a deux films en fait consacrés à la mort, enfin la disparition, la mort et la maladie, et puis deux films consacrés à l'invention de soi en fait, ou même à l'invention de la vie, parce que justement le film que vous allez voir dépasse très très largement la question habituelle dans laquelle on limite la vie, qui est l'identité. Donc voilà, c'est un film qui nous permet de dépasser cette conception un peu étroite de l'existence, qui est une conception identitaire. Et du coup, c'est une arme parmi d'autres dans justement la catastrophe ambiante, puisque évidemment, ce qui se passe en ce moment, c'est des revendications identitaires qui ne peuvent engendrer que l'étroitesse, la haine et toutes sortes de choses, enfin toutes les passions tristes. Là, on va être dans les passions gaies, c'est-à-dire celles qui nous donnent de la force. Alors, le film que vous allez voir, c'est le film à ce jour, je pense, le plus fameux de Marie. Il a reçu des prix en pagaille, en rafale, bien mérité, un peu partout dans le monde. Mais c'est aussi l'aboutissement de son trajet esthétique. Je dirais la dimension la plus manifeste de son travail, c'est faire des portraits d'autrui, des portraits d'artistes, essentiellement des portraits d'artistes de l'avant-garde new-yorkaise, puisqu'elle a longtemps vécu à New York où elle était programmatrice à l'Alliance française. Mais ce ne sont pas du tout des portraits conventionnels, tout au contraire. Enfin, l'idée de convention, elle sait même pas qu'elle est, elle est complètement hors champ, enfin, elle n'est même pas discutée, elle est hors sujet, totalement hors champ. Et ce sont des portraits donc qui partent d'une connaissance documentaire. Je pense qu'à la fin, ça retourne aussi au documentaire, au final, parce que ce sont des grands documents sur la création. Mais au milieu, il y a des sortes d'efflorescences mythographiques absolument extraordinaires qui souvent font penser à des gens comme Cocteau, par exemple, enfin, non pas du tout dans les solutions, mais en tout cas dans les horizons esthétique. Et donc, c'est pour ça que j'ai des papiers, parce que je suis incapable de retenir des dates. Elle a ses sujets favoris, si je puis dire, elle a ses muses. Donc, ses grandes muses, c'est George et Mike Cushard, donc deux cinéastes, des piliers de l'avant-garde cinématographique new-yorkaise. Tony Conrad, donc qui est à la fois un cinéaste et un musicien. Et aussi Alan Vega. Donc, elle a réalisé avec eux, par exemple, en 2004, Birth, Bath and Beyond, avec Mike Cushard. En 2008, Dream, peut-être on prononce ça comme ça,
Stars.
Minimaliste de Tony Conrad. Eat My Makeup avec George Cushard en 2010. Elle leur a rendu un hommage, donc In Homage to George and Mike Cushard en 2011. Et puis ensuite vient un film avec le grand Alan Vega, Just a Mile on Dreams. Et le dernier film d'elle, elle a fait un film aussi avec Guy Madin, enfin plusieurs d'ailleurs, joué avec toi. Et puis, le dernier film de toi que j'ai vu, mais c'est loin d'être ton dernier film, tu vas nous en parler peut-être tout à l'heure, c'est un film sur des catcheuses mexicaines absolument sublimes qui s'appelle Bim Bam Boom, Las Luchas Morenas de 2014, qui est voilà, c'est 12 minutes de pure énergie physique et affective. Donc, l'élan d'où part le travail de Marie, et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont le bonheur de la croiser, de la rencontrer, voire de co-résider avec elle, c'est voilà, un élan affectif, un élan d'amour, mais voilà, dans une une énergie d'invention qui prend en écharpe dans sa douceur la personne qu'elle est en train de portraitiser, qui en aucun cas n'est un objet, mais voilà, qui chaque fois permet de problématiser la question de ce que c'est qu'un sujet et comment être le sujet de sa propre vie. Je voulais juste...
C'est la plus belle intro que j'ai jamais eue, j'ose pas parler après ça.
On n'a pas épuisé la question, là c'est juste le début, mais je voulais finir ma petite introduction parce que quand j'ai revu le film de Marie pour préparer cette séance, donc la balade de Genesis et Lady Jane, je me suis rappelée d'une formule de Nietzsche, en fait, c'est presque une petite proposition nominale, que je n'ai jamais compris. C'est dans des fragments posthumes, une note comme ça. En plus, je la lis en français alors qu'elle est écrite évidemment en allemand. Mais voilà, c'est un horizon pour moi. Les portraits que tu as exécutés, que tu as brossés, me paraissent exactement justiciables de cette formule. Donc, que je laisse à son mystère, qui est simplement quelques mots, nominal, les stations-expérimentales de l'humanité. Les stations expérimentales de l'humanité. Et pour moi, la façon dont tu traites les artistes avec lesquels tu joues et tu travailles, voilà, c'est montrer comment ils sont des stations expérimentales de l'humanité. Et c'est donc de l'expérimental, pas seulement formel et stylistique, mais biologique. D'où évidemment la pertinence de montrer le film de Marie à l'ouverture d'un cycle sur le corps filmé, parce que on va pas trop dévoiler le film évidemment, mais les enjeux qui se déploient ici sont vraiment aussi joyeux que fondamentaux. Voilà, et donc Marie, je te laisse peut-être parler aussi de Genesis, parce que cette figure mérite film, commentaire.
D'abord, je voudrais vraiment te remercier parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément, une grande dame du cinéma. C'est la plus belle intro que j'ai jamais eue. Vraiment, merci. Je crois que je ne vais pas dire grand-chose. Je voudrais vraiment remercier Florence aussi de m'avoir invitée, d'avoir invité le film à revenir, être joué ce soir aussi. Je ne vais pas révéler le film, mais je voudrais juste vous dire comment j'ai rencontré Genesis et qui c'est pour ceux qui ne la connaissent pas ou ne le connaissent pas. Voilà, c'est il et elle en même temps. Parce que je travaillais sur un film avec Tony Conrad à l'époque. Et un soir, j'ai été à un concert voir Alan Vega, il y a maintenant très longtemps, beaucoup d'années, c'est 8, 9, 10, 11, 13 ans. Et pendant le concert, la deuxième partie, il y avait Alan Vega qui a fait son concert, et la deuxième partie, c'était Genesis, qui était toute seule, qui avait déjà un corps transformé, que je ne connaissais absolument pas comme chanteur ou personne, et qui a récité de la poésie avec juste une guitare derrière. Et c'était une voix tellement forte pour moi, et vraiment une voix de musique, une voix de poète, une voix qui m'a porté très longtemps. Je ne savais pas du tout qui était cette personne. Et le lendemain, j'ai été à un vernissage chercher une amie, et beaucoup de monde, et je me suis fait pousser à droite à gauche, et j'ai marché sur les pieds d'une personne qui s'est retournée, et je me suis excusée, et c'était Genesis, juste le lendemain. Et comme vous le verrez, elle a des très belles dents en or. Elle m'a souri tout son long et elle m'a demandé juste très simplement « qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit « je fais des portraits, des films un peu expérimentaux. » Et elle m'a dit « voilà, ma carte, tu m'écris. » Et c'est le genre de rencontre qui, vu son look et ce qu'elle émanait, m'a tellement frappée que je lui ai écrit, bien sûr, et je me suis retrouvée chez elle une semaine plus tard, sans savoir du tout où j'allais et dans quoi je mettais les pieds, mais c'était ça le plaisir aussi. Et la porte s'est ouverte et c'était son double, Lady J, que vous allez découvrir dans le film, la personne qu'elle a aimée et qu'elle aime encore tous les jours, et avec qui elle a beaucoup créé la musique, de l'art et ce film aussi. Parce que donc elles étaient tellement amoureuses que vous verrez ce qui se passe dans le film. Mais elles m'ont questionnée juste 5 minutes. Et 10 jours plus tard, je me suis retrouvée dans un bus avec le groupe Psychic TV. Parce que Genesis a créé la musique industrielle dans les années 60 en Angleterre. Avec un groupe qui s'appelle Throbbing Gristle. Et ce groupe a été un des premiers groupes aussi à amener par la musique les premières performances, la première arrivée dans les musées. Et Genesis a été répudiée du territoire anglais parce qu'elle avait montré un bout de la reine d'Angleterre sur un de ses collages à côté d'une paire de fesses et d'un œuf brouillé. Donc elle a dû quitter le pays et elle a réinventé un autre groupe musical qui s'appelle Psychic TV, qui existe toujours. Et c'est aussi quelqu'un qui écrit, qui crée, qui peint, qui fait des livres, qui n'arrête jamais, qui fait tout en même temps. Et donc ça a été le début d'une aventure avec Genesis et les DJ et le groupe Psychic TV qui a duré 7 ans. Donc voilà, pendant 7 ans, je me suis baladée avec eux et j'ai construit ce film le soir, après le boulot, avec une caméra 16 mm avec des bobines de 3 minutes. Donc vous verrez qu'il n'y a pas de son synchro et c'est dû à la méthode de façon dont je travaille toujours avec cet instrument, donc seul complètement, pas d'équipe avec moi. Voilà, donc je ne dirai plus rien et vous allez découvrir le personnage. Et merci à vous.
Merci, Marie.
Je trouve ça toujours difficile de parler juste après.
Ben peut-être tu peux, le temps qu'on se remette de ce beau film, tu peux nous donner des nouvelles de Genesis, puisque tu le revois, tu l'as revu depuis 2011, donc comment
elle
il va,
va bien.
Comment elle va, comment va cette créature.
Elle écrit encore un autre livre, elle prépare une autre expo, elle fait encore des concerts, elle n'arrête pas, elle continue, mais il y a toujours personne d'autre dans sa vie que elle et Jay, voilà. Et tout est fait en hommage à Jay, ça continue.
Alors, bon, le principe, c'est évidemment d'échanger avec vous, et, puisqu'on a la chance que Marie soit à Paris en ce moment. Peut-être je lance quelques premières questions, et puis ensuite, c'est vous qui prendrez la suite. Moi, je... Enfin, j'aurais mille questions à te poser, évidemment, mais une de celles qui est à la fois peut-être précise, enfin un peu technique, et en même temps qui, je pense, touche à quelque chose d'essentiel du film, c'est la question des archives, en fait. Parce que c'est aussi le rapport à son travail, le rapport à son parcours. Et je trouve qu'une image très emblématique et que j'ai jamais vue nulle part, c'est évidemment cette séquence absolument admirable, merveilleuse, où Genesis dit « j'ai jamais su quoi faire de cette all this shit ». Voilà. Et vous transformez ce storage en aire de jeu. Et je trouve que c'est presque l'art poétique du film, en fait. C'est-à-dire, voilà, de ce qu'on a été, ce qu'on a fait, c'est une occasion de jouer tant et plus sans jamais s'arrêter. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de travail dans ce film. Et une de ses caractéristiques, évidemment, brillante, c'est qu'il est aussi divers, enfin, il est polymorphe, montage court, plan séquence, bon, tu disais son non synchrone, mais parfois aussi synchrone, et un énorme travail donc de convocation des archives, vidéo, photographique, les affiches, les pochettes de disques. Donc comment est-ce que, puisque tu disais que la rencontre avec Genesis avait été quand même accidentelle, enfin il y avait une nécessité très forte, mais aléatoire en tout cas, donc comment tu as fait pour te plonger dans ces archives et puis trouver les bouts dont tu avais besoin, et voilà,
ça
comment
a pris
ça s'est passé.
Beaucoup de temps, parce qu'en fait le départ du film était vraiment un saut dans ce van en tournée. Donc je pensais que ce serait plus un petit film musical sur un groupe dont j'aimais la musique, dont je découvrais la musique, avec des personnes assez hors du commun aussi. Mais très très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas intéressant pour moi non plus. de filmer ce qu'on a déjà vu aussi beaucoup, le backstage des... Une tournée, c'est assez ennuyeux, enfin, quelque part. Il y a des mauvais sandwichs dans le fond d'une cave et il y a toujours des fous qui viennent après un concert. Et voilà, je me suis dit, il y a autre chose, puisque c'était sa voix qui m'impressionnait. En fait, quand elle parlait, la façon dont elle alignait les idées et elle les ramifiait et elle discutait de la vie, de son art, de sa poésie, enfin de tout, m'avait complètement attrapée. Et ce que j'ai vu pendant ce voyage, c'est qu'elle se tenait la main tout le temps et qu'il y avait vraiment un échange presque sans parole, hein, quelque chose de spirituel qui m'a énormément émue en fait. Et c'est cet amour qui m'a embarquée vraiment à aller beaucoup plus loin. Et c'est là que je pense que Jen a voulu... peut-être faire ce film avec moi aussi parce que justement j'étais à l'opposé quelque part parce que c'était un monstre et j'arrivais avec ma petite caméra 16 mm sans son synchro, rien n'était marchait très très bien. En même temps j'étais pas du tout une fan, je venais pas du tout du milieu rock'n'roll, drogue, etc. Et en même temps il y avait quelque chose de très similaire dans la façon de penser, de faire, d'autodidacte, même la matière, c'est-à-dire filmer en 16 mm avec des bobines de 3 minutes, c'est du cut-up. Et je ne m'en rendais pas compte en filmant, mais en fait, ça représente vraiment le travail de Jen quelque part, parce que des archives, la façon dont elle écrit sa musique, dont elle s'est transformée, le cut-up qui est la base de tout son travail, comme elle l'explique avec Guy Sonneborough, c'était d'une certaine façon, sans le savoir, la façon dont je travaillais aussi. Des bouts de son, des bouts d'images, des bouts de son, des bouts d'images, des passages du temps, des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent, et à la fin en faire une forme. Et je pense que ça fait partie du travail d'archive aussi. Elle disait rien en fait, et c'est au fur et à mesure que j'ai investi le sous-sol de sa maison que j'ai découvert cette immense archive qui j'ai eu beaucoup de chance de filmer parce qu'en fait il fallait que je cours après les archives parce qu'elle est elle qui a été envoyée et exclue d'Angleterre, plus jamais répudiée. D'un seul coup, le Tate Modern lui a demandé et voulait racheter tous les archives. Donc, d'un seul coup, j'ai eu le droit d'ouvrir les boîtes, de lui poser des questions, de sortir les choses, mais il y en avait tellement. Il y avait tout. Il y avait des cassettes d'enregistrement, de répétition du groupe, des lettres partout de William Burroughs, de Brian Gyson, des échanges. Il y a tellement de choses, je ne savais pas trop comment l'approcher. Et puis, une question devenait 6 heures pour une réponse. Ça devenait fou, quoi. Donc, j'ai sauté sur, en fait, 2 semaines avant que les archives partent. C'était le truc complètement dingue. C'est que les archives sont à la Tate Modern à Londres, et elles n'ont toujours pas été présentées non plus dans une exposition, parce qu'ils sont toujours en train de répertorier tout le contenu de ces archives, parce qu'il y a les premières performances, il y avait les premiers films, enfin, avec Brian Gyson, avec tous ces gens-là, donc c'était une chance folle de pouvoir sauter sur ces archives. Et d'essayer
c'était
de
un trésor, en fait.
C'était un trésor, enfin, pour moi, c'était... d'ouvrir les boîtes et d'essayer de comprendre aussi ce qu'il y avait dedans, et quoi filmer, et comment... ça a été 2 semaines de course avant qu'elle parte, quoi. Donc ça a été au fur et à mesure de la découverte et du temps passé ensemble, parce que la maison faisait 3 étages et on commence en haut et on descend, et plus on descend plus il y a de boîtes et plus il y a de choses. Donc ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir atterrir là où j'avais envie d'aller aussi, pour comprendre et l'amener dans ce jeu là aussi, parce qu'elle était tout le temps quelque part enfin difficile à capturer. Jay, par exemple, était quelqu'un qui voulait que le film se fasse, mais seulement échappait tout le temps à la caméra. Elle était comme ça dans la vie aussi, elle se mettait jamais en avant. C'est elle qui était presque le mec dans le couple, et en fait, c'était la force du couple, quelque part. Et en même temps, elle disparaissait constamment dès qu'il y a la caméra, dès qu'il y a un concert, dès que... Et il y a quelqu'un qui vient pour interviewer Jen. C'était un papillon. Et en même temps, c'était toute la force du couple entre Jay et Jen, quoi. Je sais pas pourquoi je suis arrivée là, mais...
Ben, tu fais un beau panoramique, éloquent. Est-ce que... Voilà, Florence a un micro qu'elle peut faire circuler. Est-ce que... vous avez envie de faire des remarques, poser des questions, prolonger la réflexion.
Et quand tu parlais en tout cas du montage, ça a pris un an à monter parce que j'arrivais pas du tout à savoir quoi faire. Enfin, c'était l'horreur. Pour moi, c'était des bobines de 3 mm dans la chambre avec des colonnes de boîtes sans savoir où commencer, s'il y avait une histoire et comment la mettre, parce que c'était 7 ans d'archives de sons, d'interviews, de moments, plus plein de bouts quoi, de films. Et ça a été un moment que j'ai commencé une petite scène et ça a pris. Voilà.
C'est que le montage, tu as pas par exemple construit une structure ou une ligne?
J'ai répertorié comme des archives. En fait, j'ai fait une peinture. Et rose, c'était l'amour, les post-it avec les scènes d'amour. Le vert, c'était la musique. Enfin, chaque catégorie, les archives, c'était jaune. Mmh. Et au fur et à mesure, je bougeais la structure pour m'aider à construire ma façon de penser, de la combinaison du film et ce qui manquait, ce qu'il y avait encore à tourner. Voilà.
Mais je pense que c'est une des très très grandes énergies du film parce que, enfin, si on repart de la question du corps, qui est l'entrée pour accéder à ton travail ce soir, il y a quelque chose dans l'expérience psychique qui nous ramène, qui exige du continu. Enfin, on a toujours besoin de se réétayer et de faire des projections telles, enfin c'est Husserl qui a beaucoup analysé ça, on a toujours besoin de se dire que ça va continuer, que le même va se proroger, etc. Donc on a besoin de continuité psychique. Mmh. Et là, on est devant des êtres qui se réinventent à chaque instant, tout le temps, alors dans ton film évidemment, mais tout au cours de leur trajet. Par exemple, une chose qu'avait inventé Genesis dans les années, à la fin des années 60, bon, c'était un grand performeur qui réinventait sa vie tout le temps, c'était par exemple de dormir chaque soir dans un endroit différent. Enfin, voilà, c'est une des multiples choses qui étaient pratiquées. Donc c'est plutôt des êtres qui inventent des formes de discontinuité de telle sorte qu'ils ne soient, comme c'est dit dans ton film, jamais le même. Never the same. Je veux pas être le même, jamais. Et donc cette dialectique très profonde, très fondamentale, qui est vraiment psychique, entre continuité et discontinuité, où disons dans une vie normale c'est le continu qui va l'emporter, là pour une fois il y a une sorte d'équilibre en fait qui penche du côté du discontinu et que ton film nous restitue de manière vraiment formelle, si je puis dire. Et donc je me demandais comment tu avais construit cette structure et je comprends mieux maintenant comment, parce que c'est être fidèle à, enfin, c'est ce que cette expérience de vie nous manifeste, cette énergie incroyable de la réinvention permanente.
C'était fatigant.
Oui, j'imagine. C'était fatigant, mais ça devait aussi être une source.
Mais j'ai tellement appris aussi parce que toute l'histoire, pour moi c'était vraiment nouveau aussi de découvrir toute l'histoire des premières performances dans les galeries, les premières galeries de Londres, et ça à travers aussi la musique pour, en fait ils ont inventé la musique industrielle pour que ce soit moins élite comme les galeries, mais pour toucher un public qui soit beaucoup plus populaire quelque part, et c'est à travers la musique qu'elle a pu lancer un message qu'elle voulait lancer depuis toujours, mais qui touchait à d'autres niveaux de la vie, en fait. Et d'avoir découvert toute l'histoire des lettres du mailing art où les artistes s'écrivaient les uns les autres. Enfin, moi, j'ai beaucoup... Mais c'était aussi très intense pour moi physiquement, parce que c'est un monde qui était aussi assez alcoolisé, sous d'autres effets, drogue, etc., qui était aussi un monde qu'elle cachait de moi, parce qu'elle voyait très bien que je rentrerais pas là-dedans et que c'était pas une partie du film qui m'intéressait du tout. Donc il y avait aussi tout ce processus qu'il fallait éliminer constamment et lutter contre, parce que tout était mélangé, la vie, l'art, tout. Donc il y avait cette constante bataille entre la façon de vivre, la façon d'intégrer l'art à la vie et de le découper, le recouper et de me pousser aussi à bout parfois pour tester mes limites avant de pouvoir avoir le droit de filmer Jen en maillot de bain, enfin voilà, sauter sur un tabouret.
En fait, c'était de l'initiation en permanence. Enfin,
oui, c'était ouais. Comme un playground. Enfin, et ça a permis un jeu qui a instauré aussi une proximité très, très intime entre nous, qui a permis, à partir du moment où il y a eu confiance, elle n'a jamais demandé à voir les rushs, elle n'a jamais posé de questions, elle m'a laissé faire ce que je voulais. Ouais. Et je ne sais pas faire un film autrement, donc c'était bien. Voilà.
Oui. Oui, moi je viens du côté des arts plastiques. Quand j'ai entendu parler de ce film, j'ai tout de suite pensé à Orlan. Mmh. Donc je voulais savoir si, parce que dans le film aussi à un moment donné, vous parlez de performance artistique. Mmh. Donc et puis à un autre moment, elle a une mitraillette, donc ça m'a évoqué Valley Export. Éventuellement, Lynn Herschman-Leeson a fait aussi des changements de personnalité dans les années 70. Donc je ne sais pas si elle connaissait ce type de...
Genesis, elle connaît tout.
Elle connaît tout.
D'accord. C'est hallucinant, elle lit un bouquin par jour, elle connaît tout, elle ne dort jamais, c'est épuisant et c'est incroyable. En fait, par exemple, Orlan, elle connaissait très très bien son travail, mais tout, vraiment. Et un jour, Orlan est venue à New York, elle travaillait à cette époque, et elle était venue à mon bureau pour trouver de l'argent pour faire un film. Moi, je ne produis pas de films, je montrais des films. Donc, Genesis m'a dit « Ah, t'as rencontré Orlan, je voudrais absolument un jour lui parler et avoir un discours avec elle sur son travail. » J'ai dit « Ok, ben, je vais lui demander. » Donc j'ai été voir Orlan, je lui ai demandé, elle m'a dit « Oh, je connais pas du tout Genesis et tout ça, ça m'intéresse pas trop. » Et son compagne a dit « Mais si, tu sais, tu devrais, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et ça serait vraiment bien pour toi et tout ça. » Donc j'ai dit « On organise un tournage, on y va, allez, c'est bon. » Et j'ai fait un truc qui n'est pas dans le film et ça n'a pas marché, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, je les ai fait rencontrer à Coney Island au Freak Museum. Et elles se sont retrouvées toutes les deux, Jen... très joueuse, a pris le truc complètement avec un grand plaisir, et Orlan pas trop. Elles se sont retrouvées, bon, c'était à côté en même temps, c'était un lieu très très beau que j'adore, et en fait où il y a eu beaucoup de... ça rejoignait, il y avait le Dream Machine, il y avait plein de choses qui étaient liées à leur travail aussi, donc c'est pour ça que j'avais aussi choisi pousser l'extrême à l'extrême. Seulement le dialogue a pas du tout... ça n'a pas marché. Enfin, ça ne marchait pas pour le film. Et puis, j'avais décidé que c'était trop une leçon académique sur un travail qui devenait stérile, alors que j'étais en face d'un personnage tout le temps en mouvement et transformé. Et ça ne collait plus dans le film. Et en fait, il y a eu plein de rencontres comme ça que j'ai filmées, où à la fin, j'ai décidé d'enlever les voix de tout le monde et garder que la voix et la parole... même si elle est parfois fictive, on ne sait jamais si ce qu'elle dit c'est vrai ou pas, ça m'importe en fait pas beaucoup. Ce que je voulais, c'était ce pouvoir du récit, cette façon de raconter que Jen avait, qui était tout le temps dans le, pour moi, dans l'action, dans quelque chose de mouvant et d'émouvant. Et cette rencontre avec Orlan a eu lieu, j'ai fait un petit film que j'ai mis à part qui existe juste sur cette rencontre, mais qui a pas du tout fait partie du film. Elle m'en veut beaucoup d'ailleurs. Mais on peut pas forcer. Voilà.
Merci Marie. Moi j'ai une question. Comment Genesis a réagi, la réaction de la première fois qu'elle a vu le film en fait?
En fait, je l'ai invitée à la maison, donc tu imagines, il y avait 6 ans qui étaient passés. Elle n'avait jamais vu vraiment les images, elle ne savait pas du tout ce que je faisais. Et le jour où j'ai décidé de le montrer, je l'avais montré qu'à une ou deux personnes à la maison. Et je l'ai appelée en disant, voilà, viens, c'est le moment. Et elle est venue toute seule, hein, on s'est assis, et puis elle a regardé le film, et elle était rigide comme ça, et elle me tenait la main en crispant très très fort. Et puis elle a pleuré au moment où Jay décède. Et elle n'a rien dit. Et elle m'a dit « je pars ». Et j'ai eu très, très, très peur, bien sûr, après elle est partie. Enfin, voilà. Et je ne savais pas du tout, ce n'était pas son genre en plus. Et j'étais très, très anxieuse. Et elle m'a rappelé 6 heures plus tard, en fait, en me disant « c'est le plus beau cadeau que tu m'as jamais fait, je te suivrai n'importe où avec le film ». Et ce qu'elle a fait très fidèlement pendant 1 an après. Donc, j'ai eu la chance parce que j'aimerais pas du tout me faire manger par Jen.
Il y a une autre figure aussi au croisement du cinéma et des arts plastiques qui fait genèse avec les inventions de Genesis, c'est Jack Smith. Qui était aussi un grand performeur et un grand inventeur. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler? Est-ce que...
En fait, c'est peut-être la seule personne qu'elle ne connaissait pas. Donc, je vais vraiment présenter son travail. Parce que j'adore Jack Smith et je connaissais vraiment bien. Et je pense qu'elle a dû complètement savoir que c'était ses images sans savoir que c'était lui. Ça lui a vraiment échappé, cette partie du cinéma aussi. Enfin, du côté plus performatif, mais cinéma... New York Underground, quoi. Donc, ça a été une belle révélation. De même que la rencontre avec Tony Conrad, par exemple.
C'est toi qui as suscité cette rencontre ?
Oui, c'était... Ils ne se connaissaient pas. Enfin, ils se connaissaient de nom et de musique, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et Jen rêvait de faire un concert de violon avec lui. Enfin, de le rencontrer. Donc, j'avais fait un goûter. Et ils se sont rencontrés à table et puis ça a été assez étonnant. Et en fait, après, j'ai organisé un concert qui est devenu un marathon de 2 jours où ils ont joué en continu. On a fait un vinyle. Puis après, ils sont partis en tournée. Alors, moi, c'était drôle. C'était des rockstars à eux-mêmes avec des violons expérimentaux. Donc c'était beau. C'était une belle rencontre. Et des énergies très opposées aussi. Donc
tu lui as apporté aussi...
J'espère.
Beaucoup. C'était un vrai échange.
Mais je pense que ça a aidé énormément aussi le fait que j'ai partagé cette vie qui a été un moment très difficile pour moi, mais dramatique pour elle, et que je sois là avec la caméra. Moi, je pensais que c'était la fin du film, en fait. Je voulais absolument pas m'imposer. C'était impossible pour moi, elle était effondrée et elle m'a rappelé en me disant j'ai besoin que tu finisses le film en fait en hommage pour Jay, j'en ai vraiment besoin, ça me donnera la force de continuer. Donc ça a été pas très facile de continuer 1 an et demi en plus, mais je pense que ça a vraiment, après, de tourner avec le film, de faire une sorte de deuil sur et de continuer vers la vie, quoi, le positif, je pense que ça a aussi beaucoup marqué le mouvement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions tout au fond ?
Bonsoir. Alors, je me permets de te tutoyer, mais je voulais savoir, enfin, j'imagine que quand t'es arrivé dans cette aventure, tu savais pas du tout où t'allais, ni comment ça allait se terminer. Je voulais savoir, quand est-ce que t'as su que c'était la fin, enfin, pour toi, au niveau du tournage ?
Il y a un moment où j'en pouvais plus aussi émotionnellement. Enfin, je savais qu'il fallait que je m'arrête pour... J'avais pas d'argent, donc c'était un des trucs aussi, c'est que je voyais pas toujours les rushs que je filmais. Par exemple, pendant un an et demi, j'ai filmé, puis ça remplissait le frigidaire et j'avais pas d'argent pour développer, donc je savais pas trop ce que j'avais filmé. Après, c'était magie de découvrir, mais au fur et à mesure, je découvrais le matériel. Et quand Jay est décédé, je savais qu'il y avait des choses qui manquaient, qu'il fallait que j'accomplisse pour pouvoir raconter une histoire. Après, une fois que je les ai eues, je savais qu'il fallait que j'arrête et que j'essaye au moins de monter le film. Et pendant le montage, c'est là que je me suis rendu compte qu'il manquait quelques petits moments, comme l'animation des photos du mariage ou des choses comme ça. Donc c'est là que j'ai rattrapé les bouts dont j'avais besoin pour moi pour faire le montage. Mais c'était en m'arrêtant 1 an et demi après que je savais qu'il fallait vraiment que j'essaye de monter ces montagnes de sources pour voir s'il y avait un film vraiment là où je voulais l'emmener. Et c'était bien d'arrêter aussi.
D'accord, merci.
Alors, une autre question qui est un détail, mais qui me touche assez personnellement, c'est qu'il existe un autre film, donc un très court film, mais je trouve très fort aussi, qui s'appelle The Pandrogeny Manifesto, oui, de Dioniso Sandronis, et donc qui est un peu juste le, enfin, qui est l'enregistrement du manifeste, en fait. Oui. De la pandrogénie. Je voulais savoir si tu l'avais vu, si tu connaissais Dioniso.
Et je l'ai rencontré pendant la fabrication du film, en fait, parce que c'est bien et c'est beau qu'il ait fait ce film. C'est-à-dire que moi, j'arrivais pas à rentrer ce manifeste sur la pandrogénie dans le film, parce que je voulais pas qu'on raconte un motto ou une sorte de manifeste à l'intérieur du mouvement. En fait, je trouvais que ça imposait quelque chose au public et ça m'imposait quelque chose, alors que je voulais rester dans la construction de l'amour. Et donc j'étais vachement touchée de voir qu'il avait fait ce film que sur ce moment-là, justement, qui permettait à ce manifeste d'exister, mais en entier. Voilà.
Donc c'est un film qui a été tourné, enfin, je crois que dans les mêmes années,
oui, complètement.
2009 peut-être, ouais. Et qu'on peut voir maintenant sur Internet. Donc c'est vraiment un complément très intéressant au film de Marie, donc The Pandrogeny Manifesto, tout simplement, de Dioniso Sandronis, qui lui-même est un cinéaste expérimental grec et qui a beaucoup travaillé sur le corps aussi, mais donc presque, c'est presque l'inverse, parce que lui, il travaille justement sur des... Enfin, à partir de sa culture visuelle, c'est-à-dire il a commencé par travailler sur des modèles Hélène, en fait, la question de la perfection classique. Voilà, il est parti presque du point inverse où vous en êtes arrivés tous les deux.
C'était une belle rencontre, ça vraiment.
Et c'est un cinéaste très très discret, donc j'ai
le
plaisir à l'évoquer.
Moi aussi.
Voilà, donc un petit complément pour poursuivre cette séance. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Florence, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur la...
Merci.
Le choix du film de Marie? Non.
Merci à vous. Merci
à Nicole
Marie, et
merci
Florence.
Beaucoup.
Oui, merci.
Bonne soirée.